Dans un premier temps, les gisements pétroliers ont été exploités par des compagnies étrangères. Et là, on a le début, si vous voulez, d'un processus de réappropriation par le Venezuela de ces richesses pétrolières. Après, évidemment, à l'échelle du gouvernement de Chavez, on a aujourd'hui une volonté d'accroître les richesses propres de l'État vénézuélien pour financer les ambitieuses politiques sociales sur lesquelles Chavez a été élu et qu'il convient de mettre en œuvre, notamment dans la perspective de la présidentielle de décembre 2006, où il va remettre en jeu son mandat. Et puis troisièmement, si vous voulez, il y a aussi dans ces mesures, je crois, une dimension symbolique. On connaît la rhétorique, je dirais, anti-impérialiste de Chavez, et dans une certaine mesure, c'est aussi contre notamment les États-Unis, mais également l'Europe. On sait que Total est totalement concerné par ça, ou des compagnies italiennes.
Justement, la presse américaine surnomme Hugo Chavez le nouveau Castro. Est-ce que les États-Unis n'essayent pas de mettre des bâtons dans les roues à Hugo Chavez ?
Effectivement, un premier niveau d'approche, on peut être extrêmement pessimiste et noter depuis quelques années, notamment depuis 2002, l'affrontement verbal croissant entre l'administration américaine et Chavez. Et toute une série de provocations mutuelles, y compris lorsque cet hiver, Chavez vend du pétrole à moindre coût à un certain nombre de municipalités pauvres des États-Unis pour montrer qu'il se pose en sauveur des pauvres nord-américains. En même temps, quand on regarde un petit peu les relations commerciales avec les États-Unis depuis 1998, on se rend compte que ça n'a pas changé d'un iota. C'est-à-dire qu'au fond, ces deux économies sont très dépendantes l'une de l'autre et qu'il faut absolument opposer, je dirais, à la dimension symbolique de l'affrontement entre Caracas et Washington, une dimension beaucoup plus pragmatique. Et au fond, il n'y a aucun signe, disons, au niveau des chiffres des relations commerciales qui montre que les relations sont en train de se tendre.
On parle d'un gouvernement autoritaire, populiste. Est-ce que ces deux données sont compatibles à long terme ?
D'un certain côté, je dirais, il y a quand même un ancrage démocratique qui est très difficile à nier. Et il y a de la fraude au Venezuela, comme il y a de la fraude en Floride en l'an 2000 ou dans le 5e arrondissement à Paris. Après, effectivement, on peut émettre un certain nombre de nuances dans la mesure où la figure du leader charismatique, la pression médiatique qu'il impose sur le pays, le fait que dans son entourage et à des postes très importants se situent de nombreux militaires d'actifs ou en retraite, laisse potentiellement présager une militarisation du pouvoir, à laquelle on n'assiste pas aujourd'hui. Si vous voulez, on ne peut pas parler aujourd'hui, me semble-t-il, d'un gouvernement autoritaire. Après, je ne veux pas m'engager sur les années qui vont venir.
Alors, vous avez expliqué qu'il y avait un investissement social très fort. Pourtant, les indicateurs économiques ne semblent pas avoir évolué. Comment est-ce que vous expliquez ça ?
Aujourd'hui, beaucoup d'observateurs disent que Chavez va être réélu en 2006 pour six nouvelles années. L'une des grandes questions qui se pose, c'est est-ce qu'à un moment donné, on va observer effectivement, par exemple, une amélioration de l'indice de développement humain au Venezuela, je dirais, qui permettrait de supposer que la manne pétrolière a été davantage redistribuée qu'elle ne l'est depuis le début des années 1920 et le moment où le Venezuela est entré dans l'ère pétrolière. C'est bien ça le paradoxe vénézuélien depuis le début du XXe siècle et, dans une certaine mesure, c'est aussi comme ça qu'il faut essayer de comprendre le gouvernement de Chavez aujourd'hui.